Chapitre 3. Visite à l'hôpital. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Le cabanon. 1. La maison de psychose paraissait moins angoissante dans la lumière naissante de l'aube, même si la brume qui montait de toutes ces hautes herbes lui conférait un aspect gothique. Radar devait m'attendre, car elle se jeta contre le battant de la chatière dès que je montais les marches, branlante et vermoulue. Encore un accident en perspective, et une tâche supplémentaire pour quelqu'un. « Du calme, fifille » dis-je en introduisant la clé dans la serrure. « Tu vas te faire mal !» Elle jaillit dès que j'ouvris la porte. Elle se dressa et posa ses pattes avant sur mes cuisses. Oh, diable l'arthrite ! Elle me suivit dans la cuisine et me regarda en remuant la queue racler le fond du seau de croquettes pour remplir à ras-bord un dernier gobelet. Les réserves diminuaient. J'envoyai un texto à papa pour lui demander s'il voulait bien passer dans une boutique appelée Pet Pantry à l'heure du déjeuner ou après son travail et acheter un sac de croquettes. Des Origen Regional Red. Je lui envoyai un autre message pour préciser que je le rembourserais et que M. Bodic me rembourserait ensuite. Après réflexion, j'en envoyai un troisième. Achète un gros sac. Cela ne m'avait pas pris beaucoup de temps, mais Radar avait déjà vidé sa gamelle. Elle alla chercher le singe et le déposa à côté de ma chaise. Et rota. Bah, « Excuse-toi, voyons !» Je lançai le singe, pas trop loin. Elle bondit aussitôt pour me le rapporter. Je le lançai de nouveau, et pendant qu'elle partait à sa recherche, mon téléphone émit une petite sonnerie. C'était papa. Pas de problème. Je lançai le singe une troisième fois, mais au lieu de courir le chercher, Radar traversa en clopinant, trottinant le musée des vieux papiers et sortit de la maison. Ne sachant pas si elle avait une laisse, je pris un morceau de sablé aux noix de pécan pour l'inciter à revenir au cas où. Radar était la parfaite incarnation du morphal. Finalement, la faire rentrer ne posa pas de problème. Elle s'accroupit dans un coin du jardin pour faire la petite commission et dans un autre coin pour la grosse. Sur ce, elle revint vers la maison et contempla les marches de la véranda tel un alpiniste face à une ascension difficile. Elle grimpa jusqu'au milieu. Après s'être assise un instant, elle réussit à atteindre le sommet. Je me demandais combien de temps encore elle pourrait se débrouiller seule. « Faut que j'y aille, » dis-je. « À plus ?» On n'avait jamais eu de chien, et j'ignorais que leur regard pouvait être aussi expressif, surtout de près. Le sien me suppliait de rester. Ce que j'aurais fait volontiers, mais comme le dit un poème, j'avais des promesses à tenir. Je lui fis quelques caresses en lui demandant d'être bien sage. Je me souvenais d'avoir lu quelque part qu'une année d'un être humain équivalait à 7 années pour un chien. Un calcul aux doigts mouillés, certainement, mais ça donnait quand même une bonne idée. Qu'est-ce que ça signifiait pour un chien en termes de temps? Quand je reviendrais nourrir la chienne ce soir à 6 heures, il se serait écoulé 12 heures pour moi et 84 heures pour elle? 3 jours et demi? Dans ce cas, pas étonnant qu'elle soit si heureuse de me voir, d'autant que M. Bodic devait lui manquer. Je verrouillai la porte de derrière, descendis les marches et regardai l'endroit où elle avait fait ses besoins. Encore une corvée qui s'imposait. Nettoyer le jardin. M. Bodic s'en occupait-il habituellement? Difficile à dire avec toutes ces herbes hautes. S'il ne l'avait pas fait, quelqu'un devrait s'en charger. « Tu es quelqu'un », songeai-je en regagnant mon vélo. « Exact. » Mais en l'occurrence, j'étais quelqu'un de très occupé. Outre le baseball, j'avais dans l'idée de passer les auditions pour la pièce de fin d'année « High School Musical ». Je m'imaginais en train de chanter « Breaking Free » avec Gina Pascarelli, une superbe fille de terminale. Une femme emmitouflée dans un manteau écossais était arrêtée près de mon vélo. « Madame Ragland, devinai-je. Où était-ce Reagan ?»
« C'est toi qui as appelé les secours ?»
me demanda-t-elle.
« Oui, madame. »« Comment il va ? Bodic ?»«
Je ne sais pas. Une chose est sûre, il s'est cassé la jambe. »«
C'était ta béa de la journée, peut-être même de l'année. »«
Ce n'est pas un voisin très aimable. Il reste dans son coin. Mais je n'ai rien contre lui, même si sa maison défigure le paysage. »«
Tu es le fils de George Reed, hein ?»«
Exact. »
Alcia Richland.
Je serrai la main qu'elle me tendait. Enchanté.
Et le clébard ?
un vieux berger allemand effrayant. Il le promenait le matin très tôt et parfois le soir après la tombée de la nuit, quand les enfants du quartier étaient rentrés chez eux. »
Elle montra la clôture qui penchait pitoyablement.
« Ce n'est certainement pas ça qui va le retenir. »«
C'est une chienne, et je m'occupe d'elle. »«
Tu es très gentil. J'espère que tu ne vas pas te faire mordre. »«
Elle est vieille maintenant, et elle n'est pas méchante. »«
Avec toi, peut-être, » répondit Madame Richland. « Mon père disait toujours, un vieux chien mort deux fois plus fort. » Un journaliste de la Feuille de Chou qui fait office d'hebdomadaire est venu me demander ce qui s'était passé. C'est le gars qui s'occupe des faits divers, je crois. Les crimes, les incendies, les accidents, etc.
Elle renifla.
Il n'avait pas l'air plus vieux que toi.
J'y penserai, répondis-je, sans savoir pourquoi je devrais y penser.
Il faut que je vous laisse, Madame Richland.
Je vais aller voir M. Bodditch avant d'aller au lycée.
Elle rit.
S'ils l'ont emmené à Arcadia, les visites ne commencent qu'à 9h. Ils ne te laisseront pas entrer.
2. Eh bien, si. Quand j'expliquais à la femme de l'accueil que je devais aller au lycée, puis à mon entraînement de baseball, elle demeura intraitable. Mais quand je précisais que c'était moi qui avais appelé l'ambulance, elle m'autorisa à monter.
Chambre 322, les ascenseurs sont sur ta droite.
Au milieu du couloir du troisième étage, une infirmière voulut savoir si je venais voir Howard Bodditch. Oui, dis-je, et je demandai comment il allait.
Il a subi une opération, mais il va devoir être réopéré. Et ensuite, il devra respecter une longue période de convalescence avec un gros travail de rééducation. C'est certainement Melissa Wilcox qui va le prendre en charge. En plus de la vilaine fracture à la jambe, il s'est gravement abîmé la hanche. Il va falloir la remplacer. Sinon, il devra se déplacer avec un déambulateur jusqu'à la fin de sa vie ou dans un fauteuil roulant, malgré tout le travail de rééducation.
Oh, la vache! Il est au courant?
Le médecin qui s'est occupé de sa jambe lui a probablement dit tout ce qu'il avait besoin de savoir pour le moment.
C'est toi qui as appelé l'ambulance?
Oui, madame. Tu lui as peut-être sauvé la vie. Le choc d'une part et le risque de passer la nuit dehors...
Elle secoua la tête.
C'est sa chienne, dis-je. Je l'ai entendue hurler.
C'est elle qui a appelé les secours?
Je dus reconnaître que c'était moi.
Si tu veux le voir, je te conseille de faire vite. Je viens de lui faire une piqûre dentalgique, il ne va pas tarder à sombrer. Outre la jambe cassée et le problème de hanche, il est très maigre. Ça favorise l'ostéoporose. Tu disposes peut-être d'un quart d'heure avant l'arrivée du marchand de sable.
3. La jambe de M. Bodditch était maintenue en l'air grâce à un appareil à poulie qui semblait tout droit sorti d'une comédie hollywoodienne des années 30. Mais M. Bodditch ne riait pas. Et moi non plus. Les rides de son visage semblaient plus profondes encore, comme sculptées dans la peau. Ses cernes s'étaient assombries. Ses cheveux, très fins, paraissaient morts et les filaments roux étaient décolorés. Sans doute y avait-il un patient dans le lit voisin, mais je ne le vis pas car un rideau vert séparait en deux la chambre 322. En m'apercevant, M. Bodditch se redressa, ce qui lui arracha une grimace et un soupir.
« Hello. C'est quoi ton nom déjà? Si tu me l'as dit, je ne m'en souviens plus. Ce qui, compte tenu des circonstances, serait excusable. »
Je ne me souvenais plus si je lui avais dit mon nom ou pas. Alors je le lui donnais ou lui redonnais et lui demandais comment il se sentait.
« Comme une merde. » « Regarde-moi. »«
Désolé. »«
Pas autant que moi. »
Puis, faisant un effort pour se montrer courtois.
« Merci, jeune Reed. Il paraît que tu m'as sauvé la vie. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'en valait pas le coup, mais... comme aurait dit Bouddha, tout change. En mieux, parfois, mais d'après mon expérience, c'est rare. »
Je lui dis, comme je l'avais dit à mon père, aux ambulanciers et à Madame Richland, que c'était sa chienne qui l'avait sauvée. Si je n'avais pas entendu ses hurlements, je ne me serais pas arrêté sur mon vélo.
Comment elle va?
Très bien. Je m'assis sur une chaise près du lit et lui montrai les photos de radar avec son singe sur mon portable. Il les fit défiler plusieurs fois. Je dus lui montrer comment faire. Ces photos semblèrent lui remonter le moral, à défaut de le requinquer. Une longue période de convalescence, avait dit l'infirmière. Quand il me rendit mon téléphone, son sourire avait disparu.
Ils m'ont pas dit combien de temps j'allais rester dans ce foutu hôpital. Mais je suis pas idiot. Je sais que ça va durer un moment. Et je sais bien que je devrais penser à la faire piquer. Elle a eu une belle vie, mais maintenant, ses hanches...
Ne dites pas ça, m'exclamai-je affolé. Je m'occuperai d'elle, moi, avec plaisir. Il me regarda, et pour la première fois, son expression ne trahissait ni exaspération, ni résignation.
Tu ferais ça? Je pourrais compter sur toi?
Oui. Elle n'a presque plus rien à manger, mais mon père va aller acheter un sac de croquettes Origène machin chose aujourd'hui. 6h du matin, 6h du soir, je n'oublierai pas. Vous pouvez en être sûr. Il tendit la main, peut-être pour prendre la mienne, ou la tapoter, simplement. Je l'aurais laissé faire, mais il la retira.
C'est très gentil.
Je l'aime bien. Et elle m'aime bien aussi.
Vraiment? Tant mieux. Je prends une méchante bête. Ses yeux devenaient vitreux. Sa voix un peu pâteuse.
Le produit que lui avait injecté l'infirmière commençait à produire son effet.
Elle ne ferait de mal à personne. Mais elle flanquait la frousse au môme du quartier. Ce qui n'était pas pour me déplaire. Des sales petits fouineurs pour la plupart. Des fouineurs braillards. Et les cambrioleurs, ah, s'ils entendaient Radar aboyer, ils se carapataient dans les collines. Mais elle est vieille maintenant.
Il soupira, puis toussa, ce qui le fit grimacer.
Mais elle n'est pas la seule.
Je prendrai bien soin d'elle. Peut-être même que je l'emmènerai se promener jusque chez moi. Son regard retrouva un peu de sa vivacité en m'entendant évoquer cette possibilité.
Elle n'est jamais allée chez quelqu'un d'autre depuis que je l'ai eue toute petite. Juste dans ma maison et le jardin.
Madame Richland m'a dit que vous l'emmeniez se promener.
La fouineuse d'en face? Oui, exact. On allait se promener. Quand elle pouvait marcher sans se fatiguer. Aujourd'hui, je n'ose plus l'emmener. Imagine qu'on descende Pine Street et qu'elle ne puisse plus remonter.
Il se regarda.
Maintenant, c'est moi qui ne pourrai plus revenir. Je ne pourrai plus aller nulle part.
On n'ira pas trop loin. Je ne l'épuiserai pas. Le vieil homme se détendit.
Je te paierai pour la nourriture. Et pour tes heures aussi.
Ne vous en faites pas pour ça.
Peut-être que je pourrai encore profiter d'elle quand je rentrerai à la maison. Si je rentre un jour.
Bien sûr que oui.
Si tu dois la nourrir, tu devrais m'appeler Howard.
Je n'étais pas sûr d'en être capable, mais j'acceptais.
Et peut-être que tu pourrais m'apporter d'autres photos.
Pas de problème. Bon, faut que j'y aille, monsieur... Howard, pardon. Reposez-vous.
J'ai pas le choix.
Ses yeux se fermèrent, mais ses paupières se relevèrent lentement.
Ce truc qu'elle m'a donné... Waouh, c'est du costaud.
Ses yeux se fermèrent de nouveau. Je me levai et me dirigeai vers la porte.
Petit, c'est quoi ton nom déjà?
Charlie.
Merci, Charlie. Je me disais que peut-être lui donner encore une chance. Pas pour moi, une seule m'a suffi. La vie devient un fardeau. Si tu vis assez longtemps, tu t'en apercevras. Mais elle, Radar, je suis devenu vieux et je suis tombé de cette putain d'échelle.
Je vous apporterai des photos.
Oui, très bien.
Je me retournai vers la porte. Il recommença à parler, mais il ne s'adressait plus à moi.
Un homme courageux offre son aide. Un lâche se contente d'offrir des cadeaux.
Il se tut et se mit à ronfler. Quand j'arrivai au milieu du couloir, l'infirmière avec qui j'avais discuté sortit d'une chambre en tenant à la main ce qui ressemblait à une poche d'urine trouble. En me voyant, elle la cacha sous une serviette et me demanda si j'avais pu discuter avec M. Bowditch. Oui, mais à la fin, il délirait un peu. Elle sourit.
C'est le Démérol. Allez, Phil, tu devrais être à l'école.
4. Le temps que j'arrive au lycée, le deuxième cours avait commencé depuis 10 minutes et les couloirs étaient déserts. Je dus aller au bureau demander un billet de retard à Madame Silvius, une charmante vieille dame aux cheveux bleus un peu effrayants. Elle avait au moins 75 ans et aurait dû prendre sa retraite depuis longtemps, mais elle avait conservé toute sa vivacité d'esprit et sa bonne humeur. La bonne humeur était une qualité indispensable, selon moi, quand on avait affaire à des ados.
« Il paraît que tu as sauvé une vie hier, »
me dit-elle en signant le billet de retard.
« Comment vous le savez ?»« C'est un petit oiseau bleu qui me l'a dit. Tweet, tweet, les nouvelles vont vite, Charlie. »
Je pris le billet. « En fait, ce n'est pas moi. C'est la chienne de ce vieux bonhomme. J'ai entendu hurler. J'en avais marre de répéter ça aux gens, car personne ne me croyait. Bizarrement, je pensais que tout le monde aimait les histoires où les héros sont des chiens. J'ai juste appelé les secours.
« Si tu le dis !» Allez, dépêche-toi d'aller en cours.
Je peux vous montrer un truc d'abord,
seulement si c'est un truc rapide.
Je sortis mon téléphone pour lui montrer la télé de M. Bowditch que j'avais photographiée.
C'est bien une antenne sur le dessus.
Oui,
on appelait ça des oreilles de lapin.
Le sourire de Mme Silvius me rappela celui de M. Bowditch quand il regardait les photos de radar avec son singe.
On mettait du papier d'alu au bout car c'était censé améliorer la réception. Mais regarde cette télé, Charlie. Oh, bon sang. Elle marche vraiment?
Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de l'allumer.
La première télé qu'on a eue ressemblait à ça. Une zénith. Tellement lourde que mon père s'était fait un tour de rein en la montant jusqu'à l'appartement où on vivait à l'époque. On la regardait du matin au soir. Annie Oakley, Wild Bill Hickok, Captain Kangaroo, Crusader Rabbit, à en avoir mal à la tête. Le jour où elle est tombée en panne, l'image défilait sans cesse, de bas en haut, sans s'arrêter. Alors mon père a appelé un réparateur qui est venu avec une valise remplie de tubes.
Des tubes?
Des tubes à vide. Ils émettaient une lumière orange, comme les ampoules d'autrefois. Il a remplacé celui qui était grillé, et la télé s'est remise à marcher.
Ses yeux revinrent se poser sur la photo.
Les tubes de celle-ci ont certainement grillé depuis longtemps.
Monsieur Bowditch en a peut-être acheté d'autres sur eBay ou Craigslist? On peut tout acheter sur Internet, si on a les moyens, évidemment. Mais je n'étais pas certain que M. Bowditch surfe sur Internet. Madame Silvius me rendit mon téléphone.
« Allez, file, Charlie. La physique t'attend. »